enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Ruth chapitre 4, du 13e au 17e verset. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que cet fils. » Naomi prit l'enfant et les mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisins lui donnèrent un nom en disant, « Un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. » Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Amen. Amen. Je voulais parler ce matin de deux choses. Le choix et l'opportunité. Tout ce que tu es ou tout ce que tu seras sera influencé par ces deux choses. Tes choix et les opportunités qui se présentent devant toi. Je voudrais dire une chose. La parole de Dieu qui me trouve le texte, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Texte. Ah, frère Crispin, lis-moi à haute voix. Ah, voilà, mais tu le dis. La parole de Dieu qui dit Dieu est le maître des temps. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes avec moi? Aidez-moi de temps en temps. Dieu est le maître des? Aidez. Alors la question, regardez ici, il est le maître de quel temps? Des temps, pas du temps. Maître des temps au pluriel. Et c'est, il n'a pas dit il est le maître des temps quand nous sommes contents. Il est le maître de tout temps. C'est-à-dire le temps où tu pleures, il reste le maître de ce temps-là. Le temps où tu as la joie, il reste le maître de ce temps-là. Dieu est le maître de tous les temps. Deuxième chose, Dieu est le maître de toutes circonstances. J'ajoute les S là. Pas d'une circonstance, de toutes les circonstances. Bonne ou mauvaise, il reste le maître. La question c'est que quand tu as des temps mauvais, est-ce que tu le reconnais comme le maître? Quand les circonstances sont mauvaises, est-ce que tu penses qu'il y a quelqu'un qui contrôle ces circonstances que toi tu appelles mauvaises? Daniel 2, 19. Donc pour ceux qui écrivent peuvent mettre ce texte-là. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Tout ce que tu seras demain, ta destinée, ton avenir, dépendront de tes choix et des opportunités qui sont devant toi. Regardez ici dans ce texte, ces deux récits. Un premier récit est un récit de la désolation, est un récit du désespoir, est un récit de tout est fini, je n'en peux plus. Lisons ensemble le texte. Le premier récit, Ruth chapitre 1, verset 19. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à arriver à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent à Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elles leur dirent, c'est Naomi qui parle. Écoutez comment Naomi se définit. Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Naomi est en train de décrire ici les circonstances. Elle est en train de faire une sorte d'historique de tout son parcours. Mais la seule chose qu'elle a oubliée, c'est que dans tout ce parcours-là, il y avait un monsieur là aux cieux qui est le maître de ces temps-là qu'elle vivait et qu'elle croit que c'était fini. Alléluia. Est-ce que je peux dire à quelqu'un ce matin que tu ne te connais pas? La façon dont tu te définis, Dieu ne te définit pas comme ça. À ce moment où
trouve Naomi en train de dire ceci. Dieu avait déjà mis. Bien-aimé, je vais te dire aujourd'hui que à un certain moment de ta vie, tu vas te rendre compte que ta vie, c'était comme une pièce montée. Quand tu vas rassembler les éléments, tu vas dire, ah Dieu, mais tu es terrible. Il fallait me dire que si tu avais déjà fait ça. C'est pourquoi considère que tous les événements qui se passent dans ta vie, ça ne se passe pas pour rien. Est-ce que quelqu'un me saisit? Change ta vision des événements de la vie. Tu vas te rendre compte. Et à quelqu'un ou à quelqu'une dans cette salle, je vous l'ai dit ce matin, dans quelques temps, quand tu vas faire le bilan de ta vie, tu vas voir que toutes les étapes, Dieu va faire ça comme un théâtre. Donc Dieu est en train de mettre ça. Et puis il attend ici que cette scène va jouer avec celle-là. Et puis il met une autre, il dit cette scène va jouer avec celle-là. Et puis en tout cas, tu vas mettre ça, tu vas voir que le théâtre est beau. Alléluia. Le théâtre que Dieu est en train de faire pour ta vie, Dieu est en train de placer. Mais toi, tu dis, oh, tant mauvais, Dieu est le maître. Alléluia. Bien-aimé, Joseph, dès le moment qu'on l'a vendu jusqu'en prison, si tu demandes à Joseph, est-ce que tu as déjà vu la main de Dieu? Il va te dire, non, je n'ai jamais vu la main de Dieu. Je ne vois que mes malheurs. Mais le problème, c'est que dans les circonstances malheureuses de Joseph, il y avait la main de Dieu. C'est pourquoi Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Alléluia. Choix. S'il y a une chose qui va sanctionner tes choix, c'est le temps. Les choix que tu prends aujourd'hui. Les décisions que tu prends aujourd'hui, elles peuvent paraître bonnes, mais je te dis qu'avec le temps, tu vas te rendre compte où tu as bien fait, où tu as mal fait. Deuxième chose, opportunité. J'ai regardé ce matin Larousse, le petit Robert. J'ai écrit, l'opportunité, c'est une circonstance qui convient. C'est une occasion. Alors la question que je me pose ici, c'est que une opportunité dans sa définition, on ne la prépare jamais. Toi devant, si Dieu te met une opportunité, c'est Dieu qui sait que c'est une opportunité pour toi. Mais toi, tu ne le sais pas. La question, c'est que nous devons être capables de saisir les opportunités qui sont devant nous. Si tu la rates, elle passe. Je vais arriver tout à l'heure. Voilà pourquoi David est allé au combat, là où son papa l'a envoyé pour aller faire quoi? Amener de la nourriture à ses frères. Mais quand David est arrivé au combat, quand il a regardé les choses, il a dit, ça c'est mon temps. Ça c'est mon opportunité ici. Je vais saisir cette opportunité. Il est parti comme garçon de course. Il est revenu héros. Parce qu'il a su saisir l'opportunité. Voilà pourquoi j'ouvre une petite parenthèse. Il y a aujourd'hui dans nos familles, surtout les enfants, quand les papas t'envoient, tu boudes. David lui a donné du pain. Je lui dis, va donner à tes frères. Il n'a pas boudé. Parfois, quand tu boudes, tu vas rater ton opportunité. Tu vas rater ta bénédiction. Peut-être que le papa a envie de t'apprécier un peu. Peut-être que la maman a envie de voir comment tu es. Mais dès qu'on te donne un petit, va et paie à Château Rouge, m'acheter. Tu parles. Maman, mais toi, tu exagères toi aussi. Moi, j'en ai assez. Moi, j'ai mon programme. Moi, j'ai ceci. Dieu a préparé cette opportunité pour que tu reviennes héros. Ou héroïne. Mais comme toi tu boudes, tu vas rater l'opportunité. David a compris que le pain, David ne savait pas que le pain et le fromage que lui avait donné. Lui, il savait qu'il avait le pain et le fromage pour ses frères. Mais pour Dieu, c'était une opportunité pour qu'il le rende héros. Voilà pourquoi Dieu peut travailler au travers de tes parents. Oh, est-ce que quelqu'un me saisit? Dieu savait ce qu'il allait faire de David. Voilà pourquoi il est passé par le père de David pour dire, envoie ton fils aller donner de la nourriture. Ça, c'est le scénario de Dieu. Ça, c'est la technique de Dieu. Toi, tu vas penser que c'est un ordre que papa et maman me donnent comme d'habitude à la maison. Non! C'est l'opportunité de Dieu pour t'amener à devenir héros. Voilà pourquoi dans nos maisons, les enfants désobéissants sont des enfants qui ne gagnent jamais la confiance des parents. Je vous dis, même si ton papa te donne tout, mais dès qu'il sait que tu es obéissant, il a cette chose-là qui le trouble dans son cœur. Alléluia. Est-ce que les enfants, vous me saisissez? C'est tous ceux qui refusent qu'on les envoie là. Alléluia. Quand il regarde son film, il ne veut même pas qu'on le touche.
Et il tourne même prétexte, oh, j'ai fait mes devoirs. Alors que dans la réalité, tu ne fais pas de devoirs. Alléluia. Amen. Tu vas rater l'opportunité. Tu vas rater la voie que Dieu... Ah, je vais un peu vers les enfants ici. Là, tu vas rater l'occasion. Patience. Est-ce que tu m'entends, patience? Quand ton papa t'envoie, tu ne sais pas ce que Dieu a préparé pour toi. Rentre dans les plans de Dieu, tu vas voir ce que Dieu va faire. Dieu va te faire revenir héroïne. David était capable, en obéissant à la mission qu'on lui avait confiée, de se rendre disponible pour Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ne rate pas les opportunités qui sont devant toi. Je vais en arriver dans quelques instants. Alléluia. Donc, ce que tu seras demain peut être connu ou inconnu. Alléluia. À quelqu'un à qui on peut dire, oui, tu seras ceci. Mais il y a d'autres choses, tu ne le sauras jamais. Alléluia. Donc, une destinée peut être ignorée totalement. Elle peut être connue partiellement ou connue totalement aussi. Mais la chose qui est essentielle, c'est que Dieu utilise les autres pour que nous sachions qui nous sommes. Dieu utilise les autres pour que nous sachions qui nous sommes. Alléluia. David peut-être ne se connaissait pas, mais Dieu a choisi ses parents pour qu'il se rende compte qu'il était capable de défier un ennemi. Alléluia. Voilà pourquoi c'est important dans la vie que tu aies quelqu'un qui te conseille. Alléluia. Quelqu'un qui soit capable de te dire, là tu as commis une bêtise. Parce que Dieu utilise les autres pour que nous puissions nous rendre compte de ce que nous nous sommes. Quand tu ne veux pas ça, tu vas toujours te dire, moi je suis. Mais tu es mauvais ou mauvaise. Mais comme toi tu ne veux pas que quelqu'un te dise ce que tu es, tu vas rester, moi je suis. Alléluia. Amen. Regardez tous les textes. David n'avait jamais dit que lui il était capable de combattre un guerrier. Il a fallu qu'on lui donne une occasion pour qu'il se rende compte qu'il en était capable. C'est les autres qui te permettront d'être ce que tu es réellement. Alléluia. C'est pourquoi il faut que tu sois, que tu aies des gens qui te disent, là stop, là ne fais pas ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Josué est dans la salle? Josué, tu es où? Josué, écoute-moi bien. Il faut que ça te rentre bien. Je ne sais pas pourquoi ton nom me passe dans la tête. Josué, écoute-moi bien. Les choix et les opportunités qui sont devant toi, c'est dépendant de la façon dont tu vas les gérer. Alléluia. Où est ta femme? Clotilde, elle est où? Tu écris, lui dit, pasteur a dit, sa destinée dépendra de ses choix et de ses décisions. Alléluia. Dieu utilisera les autres pour que nous sachions qui nous sommes. C'est pourquoi, comme je disais tout à l'heure, Dieu peut utiliser les parents. C'est le cas de la maman de Samson. Qui connaît l'histoire de la maman de Samson? Vous ne connaissez pas l'histoire de la maman de Samson? La maman de Samson, c'était qui? Mais là, il s'appelait comment la maman de Samson? Alléluia. Allez le chercher. Vous allez voir que la maman de Samson savait ce que son fils allait devenir. Voilà pourquoi les parents, c'est très important qu'un parent soit capable d'observer, de remarquer, de voir quels sont les talents qui sont dans son fils ou dans sa fille. C'est important. Peut-être que Dieu ne fera pas de ta fille ce que Dieu fera de ta fille ce qu'il a prévu au travers de toi, si tu es capable de voir qu'est-ce qui est dans ta fille ou qu'est-ce qu'il y a dans ton fils. Alléluia. Amen. Donc les parents, tu dois être capable de connaître. Mon fils là, il est dur en quoi? Ma fille là, elle est dure en quoi? Elle est faible en quoi? Quels sont les endroits où il faut que j'arrange? Amen. En train de planter quelques petites histoires. Et donc concernant la destinée, pour que tu sois ce que Dieu veut que tu sois, il y a deux façons de faire. Ou Dieu travaille seul, ou il travaille avec toi. Elle dit, je vous ai dit que Dieu travaille. L'homme travaille, mais ce qui est bon aussi, c'est que Dieu travaille pour nous, sans nous. Pour que tu deviennes ce que toi tu vas devenir, il faut que tu travailles. Mais il y a certaines choses, Dieu travaille pour toi, sans toi. Alléluia. Allez, c'est Dieu lui-même qui s'est dit, bon, je prends cette histoire-là entre mes mains. Mais il est fait pour toi. L'exemple pour ce texte, c'est, regardez, Dieu veut qu'il y ait un roi. Il envoie Samuel où? Dans la maison de qui? Et donc, tous les enfants commencent à passer. Il n'y a pas de roi. Et puis, on pose la question, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? Dieu commence à travailler pour David sans David. Alléluia. Et Dieu prend la décision de travailler pour toi sans toi. Je sais que Dieu dit, mais non, il y a qu'il vienne ici. Et tout ça, c'est important que tu le comprennes. Alléluia. Non, je reviens au premier récit, celui de Ruth. C'est un texte qui définit une grande tristesse. C'est un texte qui montre à quel point Ruth regrettait les choix qu'elle avait faits. Naomi plutôt. Le texte c'est quoi? Je ne sais pas. J'ai traduit le texte. Hein? Je ne sais pas pourquoi vous devez m'appeler Naomi. Elle regrette même son nom. Elle remet même son nom en cause. Je ne vaux pas. Ne m'appelez pas ça. Ça c'est vous qui dites moi non. Je ne vaux pas ce que vous vous dites. Et parfois même pour dire, je pose la question, mais pourquoi mes parents m'ont donné ce nom-là? Parce que ce que je suis en train de vivre, je ne vois pas pourquoi vous devez m'appeler Naomi. Alléluia. Elle dit, non simplement elle refuse qu'on l'appelle ce que les autres, ce qui était son vrai nom, mais elle se donne un nom à elle. Et ce nom est le fruit de ce qu'elle vit, du constat qu'elle a fait. Elle dit, comme je suis allé, comme je rentre les mains vides. Je ne m'appelle plus ça. Je m'appelle mains vides. Je m'appelle amertume. Je m'appelle ce que je sens dans mon cœur. Je m'appelle ce que je vis dans ma maison. Je m'appelle ce que je vis dans ma société. Donc, vos noms là, ce n'est pas ça mon nom. Moi maintenant, je m'appelle un nom. Je m'appelle malchance. Alléluia. Je m'appelle célibataire à vie. Je crois que maintenant, je peux dire que je m'appelle, hein, je n'aurai jamais du boulot. Je m'appelle, hein, je n'irai jamais avant. Je m'appelle, je suis venu accompagner les autres. Tu as commencé à te... C'est ce que Naomi est en train de faire, le regret de ses choix. Alléluia. Comme maintenant je m'appelle tel. Ah bon? Comme mon mari, depuis que nous commençons, mon mari me trouve que je ne vaux pas la peine. Il vaut mieux que je le quitte. Est-ce que quelqu'un me saisit? Personne ne t'a dit de divorcer, mais c'est à cause des circonstances que tu vis qui commencent à te faire dire que tu ne vaux plus rien dans cette maison, va-t'en. Ce n'est pas ton mari qui t'a dit, c'est toi-même qui fais le bilan. Tu vois ça, il y a 10 ans, je ne fais que souffrir, je ne fais que pleurer. Je crois qu'il vaut mieux que je parte. C'est toi qui t'appelles comme ça. Le mari n'a pas dit ça. Alléluia. Amen. Tu as trouvé une définition. Tu es en train de faire le regret de tes choix. Vraiment, si je savais que c'était un homme comme ça, j'allais plutôt prendre Christophe. Alléluia. Oh, je vais parler ce matin. C'est à ce moment-là que tu commences à te rappeler tous les bons gestes de Christophe. Parce que tu te dis, dans les cas comme ça, Christophe était gentil. Alléluia. Amen. Tu commences à faire le bilan de tes choix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, ce que j'aime Dieu, c'est qu'il peut réparer tes mauvais choix. Il peut réparer tes mauvais choix. Il peut les réparer. Ah ben donc, si quelqu'un me dit, pasteur, moi vraiment, j'en ai marre de cette femme. Je dis non. Maintenant, c'est le moment où Dieu va faire. Alléluia. Amen. C'est le moment où Dieu va maintenant faire. Naomi est en train de faire, parle de sa tristesse, de ses mauvais choix. Je continue le texte. Elle dit quoi? Elle se donne un nom. Car le Tout-Puissant m'a rempli. Dieu, vous imaginez Dieu? Tout-Puissant. Lui-même, il appelle le Tout-Puissant. Mais un Tout-Puissant qui remplit quelqu'un d'amertume. Vous voyez, quand les souffrances font... C'est une phrase, je ne sais pas ceux qui ont fait les grammaires ou quoi, c'est une phrase qui détruit le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Ce n'est pas, c'est pas possible. Un Tout-Puissant ne peut pas faire ce qui est dit là-bas. Alléluia. Voilà comment parfois dans nos prières, nous disons, Dieu, tu es grand, mais dans le fond de ton cœur, tu es en train de regarder, mais de toute façon, tu as échoué pour mon boulot. Tu es magnifique. De toute façon, tu as échoué pour mon mariage. Dieu, tu es merveilleux. Mais de toute façon, tu as échoué pour mon travail. C'est comme ça que nous prions. Donc, du coup, tout ce que tu dis est zéro. Alléluia. Amen. Qui est comparable à toi? Oui, tu es tout puissant, mais en tout cas, dans mon foyer, tu n'es pas tout puissant. Tu es terrible. Oui, tu es terrible partout, mais sauf pour moi. Du coup, donc, notre prière est une sorte d'opposition des mots et de ce que nous vivons. Donc, Dieu ne se retrouve pas là-dedans. Alléluia. Bien-aimé, voilà. Ça, c'est Naomi et ses choix. Il est tout puissant, m'a rempli d'amertume. Mais si tu arrives à comprendre que Dieu est le maître des temps et des circonstances, je te dis que tu vas être quelqu'un, même si les circonstances sont telles que tu les décris, tu vas comprendre qu'il y a encore une porte devant. Alléluia. Amen. Tu vas comprendre qu'il y a une porte devant. Ici, Naomi est arrivée à la conclusion, pour moi, tout est fini. Alléluia. Mais quand nous regardons le texte, le premier récit et le deuxième, nous voyons tout de suite que c'est deux récits différents. Le premier démontre que tout est fini, mais le deuxième montre que tout ce qui était considéré fini peut prendre une autre tournure. Alléluia. Alléluia. C'est pour dire que ce que toi tu appelles aujourd'hui fini, ce n'est pas ce que Dieu appelle fini. Alléluia. Dieu est en train de préparer un scénario pour toi. Dieu est en train de monter une pièce de théâtre pour toi. Le problème, c'est que tu vas te rendre compte dans quelques jours que tout, le puzzle, il est totalement en place. Tu vas te dire, ah Dieu, si je savais. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas que nous puissions dire ça. Dieu veut que nous puissions lui rendre gloire. Bien-aimé, quand Dieu va faire, quand tu dis, oh Dieu, tu es grand, mais si je savais ça, tu annules ce que tu dis. Est-ce que quelqu'un me saisit? Bon, je continue. Alléluia. Donc, regardez l'histoire de Saül. Je ne sais pas pourquoi je vais insister beaucoup pour les gens qu'on envoie aujourd'hui. J'ai dit que David est rentré héros quand on l'a envoyé aller déposer quoi? Saül. Saül était un jeune garçon, son papa s'appelait comment? Kiss. Son papa avait perdu les ânesses. Alléluia. Et son papa lui a dit, hey, viens ici. Prends deux domestiques là-bas, allez me chercher les ânesses. Il n'était pas encore roi. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Il n'était pas roi. Mais c'est à la recherche des ânesses de son papa qu'il a rencontré la royauté. Est-ce que les enfants m'entendent? Est-ce que les collaborateurs du pasteur, vous m'entendez? Parfois, quand je vous envoie, je vous mets sur la voie de la royauté. Oh, est-ce que là, tout le monde ne dit rien? Oui! C'est à la recherche des ânesses de son papa. Il était parti chercher les ânesses. C'était une histoire familiale. Mais pour Dieu, ce n'était pas une histoire de famille. Pour Dieu, c'était la porte vers la royauté. Bien-aimé, je voulais dire aux gens aujourd'hui, quand on t'envoie, vas-y de tout ton cœur. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, nous devons faire des choses avec une bonne conscience. Bien-aimé, tu vas faire quelque chose en train de bouder. L'opportunité, Dieu met une croix. C'est pourquoi Dieu dit, il ne regarde pas ce qui frappe aux yeux, il regarde au cœur. Il y a des gens, quand on l'envoie, ils pensent qu'on les minimise. Non, moi on ne peut pas m'envoyer. Moi, j'ai un autre niveau. Non. Alléluia. Non. C'est la porte vers la royauté. Donc, Saül est allé, a connu la royauté quand il a accepté de faire ce que son père lui a demandé de faire, c'est-à-dire aller chercher les ânesses. Accepte quand on t'envoie. Alléluia. Amen. Donc c'est à la recherche des ânesses qu'il a rencontré la royauté. Toi qui refuses qu'on t'envoie,
Toi qui trouves toujours des raisons pour éviter qu'on t'envoie. Et vous savez ce qui est grave? Je suis en train de m'imaginer. Imaginez-vous que Saül aurait envoyé quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est celui-là qui serait rentré dans les plans de Dieu. C'est-à-dire, quand tu fuis ce qu'on te demande de faire, c'est pourquoi Dieu, au travers de Mardoché, un jour dit à Esther, « Esther, si tu ne comprends pas que c'est pour des temps comme ceux-ci que tu es arrivé à la royauté, si toi tu ne le fais pas, et le secours viendra d'ailleurs. » Comme toi, quand on t'envoie, tu ne veux pas partir. Quand on va envoyer quelqu'un d'autre, quand on va les récompenser, tu vas dire, « Ah, si j'étais parti. » Et pourtant, c'était toi. Alléluia. Et pourtant, c'était ton passage à toi. C'était à toi que Dieu, c'est à toi que Dieu veut faire ça. Mais comme toi, t'as envoyé pour toi, on te rabaisse. Pour toi, on ne peut pas t'envoyer. Pour toi, on ne peut pas te donner. Envoyer, aller chercher des années, c'est quoi? C'est obéir aux ordres. Peut-être quand j'emploie envoyer, les gens ne comprennent pas bien. C'est obéir aux ordres. Solange, viens ici, va. C'est ça veut dire obéir aux ordres. Oh non, pasteur, moi j'ai des courses à faire. Non, pasteur, moi j'ai des ceci. Moi, j'ai... tu quittes le plan. Alléluia. Quand tu es quelqu'un qui obéit aux ordres, tu vas te positionner dans l'opportunité que Dieu te donne. Alléluia. Amen. Et tu vas arriver dans... Le peuple avait besoin d'un roi. Dieu a cherché quelqu'un qui pouvait obéir à des ordres. Et ça, c'est lui-là qui l'a donné la royauté. Alléluia. Toi qui refuses les ordres. Prenons le cas de Joseph. Il a été vendu. Je suis sûr que si on aurait demandé à Joseph, il allait, Joseph était, si vous décrivez à Joseph, vous demandez à Joseph, Joseph, qu'est-ce que c'est que ça? Les gens qui ont un mauvais cœur, il va vous dire, attendez, je vais vous expliquer. Un mauvais cœur, vous savez, moi, comme vous me voyez là, on m'a vendu. Moi que vous voyez là, on m'a mis même dans une citerne. Moi que vous voyez là. C'est-à-dire que Joseph, dans tout son parcours, n'a vu que la méchanceté des hommes, mais n'a pas vu la main de Dieu. Et pourtant, toute cette méchanceté, toutes ces choses, c'était la main de Dieu. Voilà pourquoi il est le maître des temps et des circonstances. Toi, tu appelles ça, c'est la méchanceté, c'est la main de Dieu. Alléluia. Toi, tu appelles ça, les gens ne m'aiment pas, c'est la main de Dieu. Toi, tu appelles ça, on m'en veut. Non, c'est la main de Dieu. Toi, tu appelles ça, on est jaloux de moi. Non, c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Pour que Joseph devienne quelque chose. Regardez, on l'a vendu, on l'a fait ceci. Mais Dieu a fait quelque chose de très important. Je voudrais que tout le monde n'oublie pas, c'est la prison. La prison a été le dernier scénario que Dieu a fait pour que Joseph soit ce qu'il va devenir. Dieu a mis quelqu'un en contact. Je vous ai dit ici que Dieu utilise toujours les autres pour que nous soyons ce que Dieu veut que nous soyons. Depuis tous les parcours, Dieu a utilisé qui? Ses frères. Dieu a utilisé qui? Les commerçants qui sont venus l'acheter. Dieu a utilisé qui? La femme de Potiphar et Potiphar. Et on arrive en prison, Dieu utilise les chansons. Quand il a, en prison, quand les chansons l'a connu, quel a été l'élément déterminant qui a amené Joseph à la royauté, chez les rois? C'est le songe. Alléluia. Ce n'était pas l'histoire qu'il a connue chez Potiphar. Hein? Ce n'était pas l'histoire qu'il a connue avec ses frères. Hein? Ce n'était pas parce qu'on l'avait vendu, mais c'était le contact avec les chansons. Dieu dit, ok, d'accord, j'ai préparé le contact, j'ai trouvé quelqu'un qui va me citer ce nom auprès du roi. Terminé. Et Dieu dit, arrête l'épisode là. Dieu dit, ok, d'accord. Et chanson, sort de la prison. Mais pour Joseph, il est resté en prison. Hein? Pour Joseph, c'est fini. Hein? Pour Joseph, bon, maintenant, je vais coupir en prison. Et pourtant, Dieu avait envoyé quelqu'un en prison pour qu'il connaisse Joseph. Quand cette personne est pour sortir de la prison, le jour où on a commencé à chercher, qui va interpréter, qui va faire ceci, la personne dit, oh, c'était la main de Dieu. Le contact que Dieu avait. Bien-aimé, il y a des gens qui vont travailler pour toi, que tu as connu il y a 10 ans. Dieu entre. Ceux qui t'ont connu là, Dieu a l'air à dire, gardez ça, j'attends. Dieu est en train de chercher l'opportunité. Il attend simplement le moment où on va commencer à parler de toi. Et puis il envoie cette personne là-bas. On peut dire, mais oh, de qui vous parlez? De Rigaud? Moi je le connais. Ah bon? Comme tous les gens dans les milieux où vous êtes, ils ont confiance en toi. Mais ils commencent à t'écouter. Oui, comment tu le connais? Comment? Vraiment, toi, je le connais. Je le connais. Ah bon, comme Rigaud a dit, donc nous allons faire ce que Rigaud a. Et pourtant, c'est la main de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'était un élément important. Joseph a su comprendre toutes les opportunités devant lesquelles Dieu lui a mis. Arrête de parler le langage de Naomi. Arrête ce langage-là. Alléluia. Alléluia. Vous imaginez, aujourd'hui nous sommes en train de dire, oui, Joseph est en train de gérer les biens de son de Potiphar. Oui, c'est très bien. Mais Joseph jouait plusieurs rôles dans la maison de Potiphar. Hein. Il était le gestionnaire, mais aussi il était domestique. C'est-à-dire parfois Dieu, pour t'amener à ce qu'il a prévu, Dieu peut te faire faire même des boulots que tu n'as jamais imaginé dans ta vie. Mais c'est la main de Dieu. Est-ce que quelqu'un me saisit? C'est la main de Dieu. Dieu te prend et dit, ok, d'accord. Viens, fais-moi un peu ce travail ici. C'est pourquoi, bien aimé, quand on te donne... C'est pourquoi les Français disent, hein, il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes gens. C'est tiré de l'expression divine. Vous commencez à me demander à moi de balayer la salle, mais attendez un peu. Ça, c'est une histoire des autres, là. Mais ça, c'est pour moi. Moi, j'ai déjà dépassé l'étape de balayer, moi. Moi, je ne suis plus à l'étape de balayer. Moi, je suis à l'étape de commander. Dieu dit, avec toi, je n'irai pas loin. Alléluia. Amen. Dieu veut qu'il te prenne et qu'il te mette un peu sous les ordres de quelqu'un. Bien-aimé, vous savez, pardonnez-moi. Pardonnez-moi les mamans. Pardonnez-moi. Est-ce que l'enfant peut aller dehors, s'il vous plaît? Vous savez, je remarque que dans les maisons, hein, vous remarquez que dans les maisons, il y a quelque chose de particulier. Hein. Les mamans, vous allez me pardonner. Un papa et un couple, je veux dire, vis-à-vis de leur domestique, ils se comportent tous les deux différemment. Les hommes sont toujours un peu très carrés. Fais-moi ça. Mais les mamans, lave-moi les assiettes, fais-moi les habits, donne-moi pas la maison. Elle peut donner au domestique 60 ordres à la fois. Elle oublie que c'est une personne. Les mamans, est-ce que je mens? Je ne mens pas. Je l'ai dit parce que je l'ai vu chez nous. Je sais, à un moment donné, nous avons grandi, nous étions obligés de dire à notre maman, « Maman, est-ce que tu t'imagines qu'il n'y a qu'une personne? Tu lui donnes 50 ordres à la fois. Va au marché, achète-moi des légumes. Quand tu vas revenir du marché, fais-moi ça. » Mais on lui dit, « Maman, est-ce que tu t'imagines qu'il doit d'abord aller au marché et puis rentrer? C'est la façon dont tu donnes les ordres là, il ne pourra jamais le faire. » Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Vous imaginez la façon dont on commence à te traiter. Et je voyais notre domestique à la maison, alors qu'il est en train de les laver les habits. Et puis la maman sort, « Toi, je t'avais dit d'aller au marché. Arrête d'avoir les habits que tu fais là !» Et puis elle dit, « Mais madame, mais tu m'as dit de nettoyer les habits. » Et puis il allait, il laisse les habits là. Et puis il commence à courir au marché. Et puis il rentre alors qu'il n'a même pas... « Toi, je t'avais dit de faire ça !» Vous imaginez au point où on te ridiculise comme ça. Ça fait mal. Alléluia. Et parfois, Dieu peut t'amener quand on commence à te donner des ordres. À un moment donné, tu rentres à la maison, tu te poses la question. Moi, vraiment, tout ça, c'est à cause de l'argent que je fais ça. On me traite comme un rien. Alléluia. C'est la main de Dieu. Est-ce que quelqu'un me saisit? C'est la main de Dieu. Mais quand vous regardez le texte de Joseph au soir de sa vie, il a dit à ses frères, c'est Dieu qui m'a envoyé. À ses frères, il leur dit, moi que vous voyez là, c'est Dieu qui m'a envoyé. C'est-à-dire, j'ai compris que tout ce que vous avez fait là, ce n'est pas vous, c'est Dieu. Alléluia. Il n'a pas dit à ses frères, venez, vous allez vous asseoir ici. Avant que je vous donne l'argent, je vais d'abord vous rappeler. Toi, citez-moi les noms. Vous qui avez joué les textes. Gad, Siméon, asseyez-vous un peu ici. Vous vous êtes allé comploter, vous là. Et puis vous venez ici, vous faites semblant, vous me faites rire, comme si vraiment, alors que vous avez déjà bouffé l'argent. Il n'a pas dit ça. Il les a réunis, il a dit, vous êtes mes frères. J'ai compris que tout ce qui nous est arrivé, c'est Dieu qui m'a envoyé. Combien toi, avant de faire quelque chose à quelqu'un, tu lui rappelles le mal qu'il t'a fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien pour faire un plaisir à ton mari, tu te penses d'abord, tu dis, je vais faire, mais lui aussi, il exagère, lui aussi. De toute façon, tout ce que j'ai fait, il ne croit jamais, lui. crois jamais. Ma sœur, je te dis que cette phrase-là, ce sont que les mauvaises choses que ton mari t'a faites qui sont restées dans ton cœur. Je te demande aujourd'hui, chaque fois que tu dis non, Seigneur, je veux faire un cadeau parce que cet homme, c'est toi qui me l'as donné. Ah, toutes les sœurs sont calmes. Oh, sœur, amen. Adèle dit amen. Tout ce que tu fais pour Robert, c'est Dieu qui te l'a donné. Parce que moi, tu ne me raconteras pas le compte. C'est que je dis à Robert, Robert, je vais te dévoiler quelque chose. J'ai tout fait pour qu'elle ne t'aime pas. Je vais m'expliquer. Pour que tu ne m'en veilles pas. Alléluia. C'est-à-dire, je l'ai testé sous toutes les formes. Parce que je voulais être sûr qu'elle t'aimait. Alléluia. Je suis un jour, je vous dis la vérité, Robert, tu étais chez Pasteur Hippolyte, non? Je suis allé chez Pasteur Hippolyte, j'ai rencontré quelqu'un. Quelqu'un m'a raconté, et puis je suis revenu, j'ai dit à Adèle, Adèle, mais comment tu vas épouser un homme? Je ne sais pas comment, il a quitté l'église là, et puis elle dit, j'ai chargé Robert auprès de... Puis à la fin, elle me dit, papa, je l'aime. Je dis, je sens que c'est sérieux. Ma question, c'était pas, je n'étais pas contre Robert, mais je voulais être sûr vraiment qu'elle l'aimait. Quand je me suis rendu compte qu'elle aimait, je me suis dit, ok, d'accord, là, on laisse passer les choses. Rien à faire, voilà, merci, rien à faire. Alléluia. Alléluia. Donc aujourd'hui, tu ne peux jamais me dire qu'il est un mauvais. En tout cas, moi, tu ne diras jamais ça, je te contredirai. Et d'ailleurs, tu le sais. Moi, elle m'appelle au papa, toi, tu parles toujours pour Robert. Parce que chaque fois qu'elle vient, papa, Robert a fait, je dis, tais-toi, je te connais. Robert a raison. Elle est là, je lui dis, Robert, je te dis, je suis ton premier avocat, calme-toi. Alléluia. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Bien-aimé, Joseph réunit ses frères, il leur dit, Dieu m'a envoyé. C'est-à-dire que Joseph est capable de considérer que toutes les étapes qui sont passées dans sa vie, même si le mal est venu de ses frères, mais il considère que c'était la main de Dieu. Parce que Dieu veut que tu arrives là où tu vas arriver, mais Dieu veut qu'il continue à utiliser ton cœur. Il continue à te parler. Il continue à t'utiliser. Si tu commences à mettre la rancune, tu commences à mettre la haine, tu commences à mettre ces choses, Dieu ne va pas t'utiliser. Dieu ne va pas t'utiliser. Alléluia. Alléluia. Au soir de sa vie, Joseph dit à ses frères, c'est Dieu qui m'a envoyé. Alléluia. Et donc au deuxième texte, quand Naomi tient l'enfant de Ruth, après qu'elle se soit définie comme une femme finie, Dieu trouve un moyen pour la récompenser. Comment? Deux filles, Orpa et Ruth. Si vous lisez le texte de la parole, vous allez dire que c'était deux filles qui servaient les dieux de Moloch. C'était une divinité. Ces dieux-là, c'était un dieu qui, pour qu'on puisse l'adorer, il faut qu'on sacrifie les enfants. C'était ça les dieux de Ruth et de Orpa. Voilà pourquoi quand Naomi décide de rentrer, elle leur dit, rentrez vers vos dieux. Orpa dit, oui, moi je vais rentrer. Mais Ruth dit non. Pourquoi? Parce que Ruth s'est rendue compte que les dieux qu'elle servait, le Moloch, étaient différents du dieu de Ruth de Naomi. Voilà pourquoi elle lui dit, là où tu seras, je serai. Ton dieu sera mon dieu. J'ouvre une petite parenthèse. Même dans nos couples, combien le même dieu là est le dieu de la femme et de l'homme? Alléluia. Même dans nos églises, même dans notre église là, le frère a sa conception de Dieu. La sœur a sa conception de Dieu, du même Dieu là. Naomi dit, Ruth dit à Naomi, ton Dieu, parce que Ruth était capable, elle a fait là, elle a remarqué, dit, Moloch ne vaut pas le Dieu de Naomi. Alléluia. C'est-à-dire que quand elle a rencontré Naomi, elle a rencontré Yahweh. Elle a rencontré le vrai Dieu. Elle a rencontré le Dieu qui change. Elle a rencontré le Dieu qui enlève l'amertume. Elle a rencontré le Tout-Puissant. Voilà pourquoi elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Quel est le témoignage que tu portes de ton Dieu dans ta maison? Alléluia. Nous venons tous à l'église, mais À un moment donné, bien, regarde, honnêtement parlant, est-ce que tu peux témoigner que ton mari est chrétien alors que vous êtes dans la cellule-là? Alléluia. Regarde ta femme, honnêtement parlant, quand tu vois comment ta femme te comporte, se comporte dans la maison, est-ce que vraiment elle est chrétienne? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la vraie question. Madame Oko, est-ce que vraiment ta belle-sœur Bettina peut dire que la femme de mon grand frère est chrétienne? Je te dis, là, ma fille, tu auras grandi. Je te dis que là, tu auras atteint un niveau. De telle manière qu'elles disent, le Dieu de ma belle-sœur, le Dieu de mon frère, Rigo, est-ce que ta petite sœur peut dire, parler de ton Dieu à toi? Qu'elle ne parle pas de vos instants de prière. Parce qu'aujourd'hui, nous focalisons votre vie sur le temps de prière. Non, c'est sur la conversion. Alléluia. Ce n'est pas si nous allons prier pendant 50 heures et puis après, nous redevenons tous des païens. Est-ce que Bettina peut dire que Rigo, mon grand frère, est converti? Jolie, ma belle-sœur, est convertie. Ce ne sont pas des gens qui mettent les cassettes religieuses à la maison. La musique chrétienne joue du matin au soir. Ce n'est pas ça être chrétien. Ce n'est pas ça avoir une maison convertie. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Alléluia, monsieur Ngoma. Est-ce que celle-là peut dire mon mari est converti? Elle peut dire que oui, mon mari joue au saxo à l'église, mais c'est rien ça. Si j'appelle un popoloai, il va venir jouer le son. Vous connaissez un popoloai? C'était un saxophoniste de chez nous. Alléluia. Alléluia. C'est ça, monsieur Ngoma. Si tu veux qu'Aline dise, mon mari joue au saxo à l'église, je te dis que le jour où toi tu ne joueras pas, quelqu'un va jouer. Nous connaissons un frère qui joue au saxo. Donc le fait de jouer le saxo à l'église, zéro. Est-ce que tu es converti? Aline, est-ce que tu es converti? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Naomi, Ruth dit à Naomi, ton Dieu. Voilà pourquoi je ne peux pas te quitter. Alléluia. Parce que Naomi se rend compte qu'elle s'éloigne du... Ruth se rend compte qu'elle s'éloigne du Dieu de Naomi. Elle est perdue. Alléluia. Est-ce que tu ne peux même pas un jour, un matin, tu te réveilles que je dis, ma femme, je vais continuer à t'aimer ne fût-ce que pour le Dieu que tu sers là. Parce que je sens que ton Dieu là, tu m'as... Non, toi, tu... non, je t'aime parce que c'est moi. De toute façon, si tu joues avec moi, arrête de ça. Tu es païenne. Ou tu es païen? Alléluia. Là, tout le monde s'était. C'est ça la vraie question. On lit le texte là-bas. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu seras, j'y serai. Mais pourquoi? Ruth a vu que Naomi avait un Dieu. Avait un Dieu. Et s'est dit, c'est Dieu-là. Moi, j'étais chez Moloch. Moi, j'étais ça. Moi, j'étais ça. Moi, j'étais ça. Alléluia. Alléluia. Jour, tu peux vraiment, tu regardes ta femme comme ça, frère Crispin, tu dis, ah, Claire, n'eût été toi, ma vie, elle est finie. Oui. Alléluia. Amen. Oui. Voilà pourquoi, laisse que nous continuions à servir ce Dieu-là, Claire. Attachons-nous à ce Dieu-là. Parce que ce qu'il a fait dans ta vie, ma femme, elle aussi, elle te regarde et dit, ce qu'il a fait dans ta vie, mais nous avons le même Dieu. Alléluia. Amen. Mais il suffit qu'un jour, on parle un peu, ah, ma femme que vous voyez là-bas, vous savez, avant qu'elle ne se convertisse, elle était comme ça. La femme va bouder pendant toute une semaine. Ah, pourquoi tu parles de moi? Tu es en train de me ridiculiser devant les gens. Mais attends, quand tu étais païenne, tu ne savais pas que c'est ridicule. Alléluia. Amen. Nous témoignons. Nous ne ridiculisons personne. Alléluia. Amen. Nous parlons de ce que Dieu a fait dans notre vie. Tu devais être heureux de regarder ta femme. Tu dis, Seigneur, merci. Ce que tu as fait dans cette femme, voilà pourquoi j'en jouis aujourd'hui. C'est toi qui as fait qu'elle soit ce que moi je la vois. Elle m'aime, elle fait tout ceci. Ça, c'est toi, Dieu. Parce que si tu n'étais pas passé dans sa vie, peut-être que je ne l'aurais pas rencontré. Peut-être que je ne l'aurais pas vu. Oh, Seigneur, merci. Ce n'est pas ridicule. Ce n'est pas ridicule. Alléluia. C'est Dieu-là que Ruth a rencontré. Et c'est ce Dieu-là qu'elle dit, je ne t'abandonnerai pas. Quel est l'élément sur lequel nous fondons notre engagement, même dans le mariage? Si ce n'est pas Dieu, tout est nul. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Hein, pourquoi ma soeur n'était pas vanne jamais? De toute façon, moi, j'ai une beauté que tout le monde connaît. Mon mari doit savoir que moi, je suis belle. Je t'ai dit, la beauté, elle fane. Mais Jésus ne fane jamais. Si c'est lui le base de, la base de l'engagement, de l'alliance, le mariage, même s'il va subir des coups et de ceci, quand Jésus se met en place, il absorbe les coups. Mais la beauté, un jour, quand on va te donner un coup, la beauté va finir. Alléluia. Alors le mari va dire, non, moi, je ne t'avais pas connu comme ça. Le jour où tu as une cicatrice ici, lui-même, là-même, celui qui a créé la cicatrice, il change. Il dit, de toute façon, ta figure, là, moi, ça ne me plaît plus. Alléluia. Moi, je n'avais jamais pensé épouser une femme avec une cicatrice. Et il oublie que c'est lui qui a créé la cicatrice. Il commence à te créer des problèmes. Alléluia. Mais si tu as Christ, il ne verra pas la cicatrice. Il ne verra pas. Et d'ailleurs, vous n'arriverez même pas à la cicatrice. Alléluia.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Quand Naomi tient l'enfant, elle comprend. Elle tient l'enfant de la fille qui s'appelle Ruth, mariée à l'homme le plus important de la ville. Alléluia.
Amen.
Sortie de quoi? Celle qui glanait. Elle glanait. En lingala, on dit Semba Bilokota. Alléluia. Elle glanait, elle est devenue la femme de l'homme le plus important. Est-ce qu'une sœur me saisit?
Amen.
N'envie pas les Mercedes. Prépare ton cœur. Dieu te prépare une Mercedes à toi.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Marié à l'homme le plus... Attendez un peu, vous savez, bien-aimé, je vous ai toujours dit... Hein? Alléluia.
Amen.
Pardonnez-moi. Depuis que je connais papa, il m'a fait rentrer dans des milieux que je n'avais jamais l'idée de rentrer. C'est-à-dire que dans la vie, il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Comme je vous dis, dans la vie, il y a moquette et moquette. Je vous dis la vérité. Quand tu es chez toi, tu regardes ta moquette, tu dis, je te dis que ça c'est chez toi. Tu vas entrer dans une autre maison, tu te poses la question, cette moquette-là, est-ce qu'on met les pieds? Oh, on ne met pas les pieds. Parce que c'est un niveau. Est-ce que cet homme Boaz, bien-aimé, qui a déjà rencontré Chirac en cours de route? Parce qu'il a son milieu. Et ce milieu-là, toi et moi, ne pouvons pas y accéder. Comment imaginez-vous aujourd'hui que, pardonnez-moi, je donne, c'est une caricature, Chirac soit célibataire et qu'il vienne chercher une femme à Ebenezer. Vous voyez les niveaux? Ça, c'est Dieu qui peut faire une chose comme ça. C'est-à-dire que dans tout son milieu, Dieu lui ferme les yeux. Il ne dit pas dans ses milieux. Je ne veux pas. Je vais t'amener dans mon milieu à moi, Dieu. Là où j'ai préparé une qui est terrible. Celle-là, elle mérite cette place. Dieu t'enlève dans ton bas niveau là et puis, oh, c'est ça, marié à l'homme le plus important, Boaz. Mais tiré de l'endroit où on ne pouvait jamais s'imaginer. Même si tu ne passes pas aux Champs-Élysées, un jour tu y arriveras. Alléluia. Dieu te prépare. Simplement, Naomi, Ruth a rencontré le vrai Dieu. Mais c'est toujours au travers de quelqu'un. Le contact pour que Ruth devienne ce qu'elle est, c'est de s'appeler Naomi. Est-ce que toi, dans la vie, tu as même un contact? Une personne chez qui tu te demandes, mais est-ce que tu peux me conseiller un peu? J'ai pris telle décision. Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Aujourd'hui, nous sommes devenus d'une telle indépendance. Nous n'avons de compte à rendre à personne. Nous n'avons de conseils à demander à personne. Nous n'avons rien à dire à personne. Nous décidons nous-mêmes. Nous sommes nous-mêmes conseillers et Dieu. Nous-mêmes. Je décide de ma vie telle que moi je pense. J'ai réfléchi et je pense que c'est la bonne voie. Non? Oh, alléluia.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Je termine. Sur le chemin de la vie, il y a des gens que Dieu place. Mais le problème avec ces gens-là que Dieu place, le temps peut être long ou court. Quand est-ce que Ruth a rencontré Naomi? Il a rencontré Naomi quand il a épousé son fils. Mais quand est-ce qu'ils se sont retrouvés à Bethléem? Des années après. Mais avant qu'ils se retrouvent à Bethléem, le papa est mort, le mari est mort, elle a glané dans les champs. Tout ça pour un jour se retrouver la femme de Dieu. Peut te mettre avec des gens dans le chemin de la vie, mais le temps peut être, Dieu peut faire en sorte que vous vous rencontrez aujourd'hui, demain les choses se produisent. Tout comme vous rencontrez aujourd'hui, les choses vont se produire 20 ans après. C'est pourquoi Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Ça, c'est un principe important dans tes choix. Sur le chemin de la vie, Dieu va mettre des personnes. Mais l'action de Dieu avec ces personnes là-bas, ça peut être vite, tout comme ça peut être tard. Le temps peut être court ou le temps peut être long. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, il y a des gens qui se marient aujourd'hui dont le véritable mariage ne sera qu'après 10 ans. Mais avant 10 ans, ils se cherchent. C'est des coups. Mon de nous va se séparer. Dieu est en train de préparer. Au bout de 7 ans, l'homme regarde comme ça et dit, c'est faux, c'est pas possible. Ça, c'est la femme de ma vie. Il prend toutes ses colères là, il l'enlève. La femme aussi prend toutes ses colères, hein, il l'enlève. Inséparable. Dieu a mis 7 ans pour travailler. Mais si vous n'êtes pas capable de comprendre, avant ces 7 ans là, vous allez vous séparer. Et vous allez vous rater. Alléluia. Alléluia. Si tu es dans cette salle et que tu vis des moments difficiles, je te dis que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu en est le maître. Le temps peut être court ou le temps peut être long. Deuxième principe. Sur le chemin de la vie, il y a des personnes auxquelles nous tenons, mais que Dieu veut que nous nous en séparions. Oh, est-ce que ça devient un peu plus dur? Il y a des personnes, nous tenons. Moi, il faut que je sois avec le frère Alex. Il faut que Dieu dise non, pas Alex. Il faut que je sois capable d'accepter de me séparer avec Alex, même si je grince les dents. Alléluia. Parce que Dieu sait que ces personnes-là sont nocives. Voilà pourquoi Dieu s'est arrangé. Naomi aimait ces deux belles filles. C'était les deux belles filles de ses deux enfants. Comment a-t-elle pu choisir Ruth et laisser Orpa? C'est de la discrimination. C'est qu'elle aimait ces deux belles filles différemment. Non, elle les aimait toutes. Mais elle a compris qu'une dans son parcours, c'est la catastrophe. C'est pourquoi elle les a dit. Première marche, ils font, ils disent. La Bible dit qu'ils pleurèrent, hein, ensemble. Et puis ils ont avancé. Naomi ne sentait toujours que ça ne va pas. Les pleurs là, ça ne disait rien. Ils avancent encore et puis... Regardez, lisez le texte, vous allez voir que quand ils ont commencé à dire, ils se sont rencontrés, ils ont pleuré ensemble, puis elle leur a dit, retournez-vous. Et là, même a dit, dans mon ventre, il n'y a plus d'enfant qui va sortir pour vous épouser. Entrez. Ils ont dit, non, nous allons partir. Elles ont avancé encore, elles se sont mises ensemble, elles ont pleuré. Naomi a posé encore la deuxième question. Vraiment. Rentrer, là, Orpa a compris. Ruth, Naomi a dit, ah, celle-là elle-même plus que l'autre, celle-là a compris. Elle dit que dans les deux, Naomi, Ruth avait compris ce qu'était le Dieu de Naomi, mais Ruth, Orpa n'avait pas compris. Alléluia. Amen. Sur le chemin de notre vie, il y a des hommes auxquels nous nous attachons, mais que Dieu n'en veut pas. Nous devons savoir nous en séparer, même en grinçant les dents. Alléluia. Amen. J'ai dit, laissez ces gens partir et puis graissez les dents. Laissez-les partir, puis tu dis, j'accepte la douleur, mais quand même, va-t'en. Alléluia. Amen. Parce que tu le laisses dans ta vie. Je t'ai dit, c'est au moment M de ta vie qu'il va jouer le rôle nocif. Et tu vas regretter parce que Dieu te donne l'occasion de voir tes choix. Alléluia. Amen. Troisième principe, avant-dernier, il y a des gens avec lesquels nous devons être attachés parce que notre destinée en dépend. Il y a des gens, tu l'enlèves de ton chemin, il tue ton avenir. Oh, est-ce que quelqu'un m'a saisi? Dieu est terrible. Tu l'enlèves de ton chemin, il tue ton avenir. Parce que Dieu fait fonctionner ton destin par rapport à lui. Ce n'est pas qu'il est très important, mais Dieu sait que vous deux ensemble, les choses vont marcher. Dieu sait que je vais mettre Alex à côté de lui parce que ce que je vais transmettre à Alex, il va le saisir. Tout simplement. Mais ce n'est pas parce qu'il est plus beau ou plus beau. Non. Parce que Dieu a trouvé une bouche autorisée pour pouvoir faire sa volonté. Et vice versa. Donc, votre destinée dépend de vous deux. Fait que Dieu sait que pour que Alex freine, il faut que je passe par celui-là. Vite. Et celui-là qui te dit, oh, Alex. Dieu dit, ah, j'ai accompli ma mission. Tu freines. Il te dit, mais tu n'as pas vu que tu as freiné longtemps. Récontinue, tu continues. C'est Dieu. Ce n'est pas lui, c'est Dieu. Il y a sur le chemin de notre vie, les gens, Dieu dira, voilà pourquoi Ruth, Naomi lui dit, quand tu vas faire, tu ne diras rien. Mardoché, Esther, Mardoché dit, Esther, là où tu es là-bas, ne dévoile jamais ton identité. Qu'on fasse tout ce... L'ère d'Esther était intimement liée. Voilà même pourquoi Naomi, Mardoché est capable de lui tenir un langage difficile. Il dit, si toi tu ne fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Parce que Dieu savait que quand Ruth entend ça, non plutôt, Esther entend ça, elle est obligée de chercher. Et si vous regardez, la preuve c'est que quand elle lui a parlé comme ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée rentrer en quoi? En jeûne. Parce que c'était une phrase qui l'avait touchée. Venant d'une autre personne, elle aurait peut-être balancé ça. Mais parce que ce sont deux personnes dont le destin est intimement lié. Alléluia. Est-ce que dans ta vie, tu as déjà compris une personne que Dieu a placée dans ta vie pour t'aider à aller loin? Quels sont les rapports que tu entretiens avec cette personne? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. As-tu même dans ta vie un conseiller spirituel? De temps en temps, même quand tu lis un texte de la parole, tu le demandes. Qu'est-ce que toi, tu as compris un peu ça? Tu as compris. Aujourd'hui, dans nos églises, tout le monde connaît. Tout le monde a la révélation. De toutes les façons, la révélation, elle ne vient que par quelqu'un. Nous avons la révélation de la parole par Jésus. Elle n'est pas venue de nous-mêmes. La révélation, elle vient toujours par quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, tout le monde dans nos églises est révélé. Voilà pourquoi on n'a plus besoin de conseiller. On n'a plus besoin d'aide. On n'a plus besoin de quelqu'un pour nous dire, non, ça, ce n'est pas comme ça. Oh non, moi, je reçois directement du Saint-Esprit. Je reçois directement. Moi, c'est des contacts directs avec le Saint-Esprit. Moi, c'est contact. Demande à quelqu'un, il va te dire, oui, c'est bien le Saint-Esprit, mais va comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De toute façon, laissez-moi dire une chose. Une jeune fille qui va au mariage, elle va au mariage. Alléluia. Amen. Mais il y a des choses du mariage dont elle a besoin que quelqu'un lui dise. Mais la réalité, même si elle y va, elle le fera. Comprendre qui pourra. Que vous puissiez lui dire, elle va le faire. Mais quand on lui a dit, elle le fait bien. Alléluia. Mais quand on ne lui a pas dit, elle le fait mal. Parce qu'elle le fait avec ses choix, elle. Alléluia. Amen. Ouais, pourquoi aujourd'hui, ici, voilà, tu vas dans les mariages? Vous mangez tous les jours les McDonald's. Alléluia. Midi, McDonald's. Le matin, McDonald's. À midi, McDonald's. Omelette grillée. Oh, omelette sautée. Alléluia. Il y a plus que des omelettes. Mais le problème, c'est qu'à la maison, quand on veut te dire quelque chose, tu ne veux pas. Parce que ta destinée de femme est intimement liée peut-être à ta maman. C'est ta maman qui va te dire, ma fille, toi tu es en train de jouer avec les omelettes ici. Apprends à préparer la semoule. Le jour où tu partiras, moi je ne serai pas là-haut. Elle est en train de t'apprendre quelque chose. Alléluia. Dernier principe, j'arrête. Il y a des endroits dans notre vie, sur le chemin de la vie, il y a des endroits où nous ne devons pas être. Et d'autres endroits où nous devons être. Alléluia. Il y a des endroits où nous devons être et des endroits où nous ne devons pas être sur le chemin de notre vie. Tu te mets là où il ne faut pas que tu sois. Tu n'arriveras jamais là où tu vas. Parce que tu n'es pas là où il faut que tu sois. Alléluia. Mais il y a des endroits, dès que tu arrives à cet endroit-là, quelque chose se passe. Parce que c'est l'endroit que Dieu a préparé pour que toi tu y sois. Alléluia. Bien voilà, il y en a beaucoup que je peux retirer de ça, mais je crois que les quatre, je les ai tous englobés. Je termine par un témoignage. Alléluia. Un jeune homme qui a terminé ses études et qui a obtenu une bourse pour aller étudier. C'est-à-dire, il a terminé, comment on appelle, bac, hein? Bac, voilà. Et puis, il a obtenu une bourse pour aller étudier au Portugal. Pour nos amis qui parlent un peu angolais. Pour nos amis angolais qui parlent portugais. Et donc, le voyage était prévu le lundi. Le dimanche soir, on lui dit, le vol est annulé. Bien-aimé, je voudrais vous rappeler que c'est quelqu'un qui n'a jamais quitté l'Afrique. Il est au Mozambique. Elle dit, aller en Europe, c'est... Mais avant ça, avant que je continue de témoigner, il vivait dans un quartier où il avait un aîné dans le quartier, mais cet aîné-là faisait du secourisme. Vous me saisissez? Et donc cet aîné-là l'aimait beaucoup. Et chaque soir, il venait, petit, viens, 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 je vais à mes cours de secourisme, viens. Et quand ils vont au cours de secourisme, il lui dit, apprends aussi à faire le secourisme. Il dit, ah, vieux, je vais aller avec ça où? Secourisme, les faire de bouche à bouche, là, c'est quoi ça? Alléluia. Mais les vieux là du quartier lui disaient, apprends petit, apprends. On ne sait jamais dans la vie. Et donc, chaque soir, il apprenait les petites notions de secourisme, les petites notions de secourisme, jusqu'à ce qu'il a eu son bac, et puis il a obtenu la bourse pour partir au Portugal. Donc, le vol était prévu le lundi. Le lundi, on vient lui dire, oh non, il y a quelque chose, tu vas partir mardi. Lundi, mardi matin, on dit, oh non, on a dit qu'il y a tel document, tu vas partir mercredi. Mercredi, ah non, oh non, tu vas partir jeudi. Il dit, ah, mais finalement, c'est cette histoire-là. Et puis jeudi, on lui dit, non, tu vas partir vendredi. Et finalement, vendredi, donc, on l'amène à l'aéroport, il rentre dans l'avion. Sans le savoir, on le fait asseoir à côté d'une jeune fille. D'une beauté, comme si elle n'était pas née. Alléluia. Donc, le petit, donc, place là où il était, il s'est dit, mais... Oh là là, non. Donc, tous les vols, le petit, il dit, mais non, ça, non. La conversation s'engage. Comment vous allez, ça va. Vous êtes mariés? Non. Alors la fille, vous savez, il y a des filles tout de suite, elle dit, moi mon souci c'est épouser un jeune garçon comme moi, qui a fait des études, qui a fait ceci. Donc le garçon commence à se mettre un peu dans le profil. Il dit, moi aussi je suis en train d'aller faire des études. Donc l'ex aussi lui a dit, moi aussi je vais faire des études à l'université. Elle aussi dit, moi aussi j'ai envie de faire des études à l'université. Donc, et puis tout d'un coup, la fille fait, elle pique une crise. Et se rappelle les petites notions de... La fille revient à la vie. Dans l'avion. Alléluia. Donc il a déjà marqué un point. Tout de suite la fille revient à la vie. La fille dit, oh, toi tu es qui? Dis-moi, je vais faire des études. Alléluia. Donc quand on descend de l'avion, donc avec la crise, les hôtesses encadrent la fille, on arrive à l'aéroport, on appelle ses parents. On dit, non, il faut que quelqu'un vienne la chercher parce qu'elle a piqué une crise. Qui vient chercher? Un des grands directeurs de la Banque mondiale installé au Portugal. Qui vient chercher sa fille. Et donc, dès que le directeur arrive, la fille dit, papa, dans l'avion, j'allais mourir, papa. Qui t'a sauvé? Non, le papa dit, quoi? Alors, les hôtesses, tout le monde dit, mais monsieur, vous aurez perdu votre fille. Il faut appliquer une crise, c'était dangereux. Nous, le temps que nous puissions arriver, mais ce jeune garçon a appliqué très bien ses notions de secourisme. Et la fille est venue, le papa a dit, ah, bon, pose la question. Et vous, vous êtes venu ici faire quoi? Il dit, je suis venu aux études, j'ai obtenu une... Vous allez habiter où? Il dit, non, je ne sais pas trop, l'université. Il dit, terminé, vous allez habiter à la maison. Logement garanti. Un directeur de la Banque mondiale. Donc, du coup... Le garçon, aéroport, dans la maison. Alléluia. Je voudrais tirer une moralité. Il y a des choses dans la vie, quand on te dit de le faire, c'est pour ton bien. Toi, tu peux penser que ça ne vaut rien, mais ça va te servir. S'il avait refusé les cours de secourisme, la fille allait mourir. Il allait la rater. allait rater les papas. Alléluia. Donc il a fait les études au Portugal. Il a terminé. Tous les étudiants qui venaient de Mozambique au Portugal pendant les jobs d'été, ils étaient obligés d'aller chercher les jobs. Lui n'a jamais cherché un job parce qu'on lui donnait tout. Est-ce que vous comprenez comment Dieu travaille? Il a vécu là-bas, il a eu son diplôme. Dès qu'il a terminé son diplôme, le problème c'est que la fille étudiait dans une autre université. Mais le garçon habitait chez la fille alors que la fille, elle était interne. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Donc, la fille venait que le week-end. Ah, le garçon en a profité pour dire, mais de toute façon, dans la vie, nous avons parlé que de se marier. Qu'est-ce que tu penses? Alléluia. Aujourd'hui, ils sont mariés. Les opportunités de la vie, tu les rates. Tu les rateras pour toute ta vie. Alléluia. Donc parfois même à l'église, il y a des choses, on te dit, fais ça. Va faire ça. Tu dis, ah, ça c'est quoi? Ça ne vaut rien ça. Mais c'est la chose que Dieu va utiliser pour te faire connaître. Il a fallu, la fille a piqué une crise, il est temps de parler. Les notions de secourisme sont arrivées. Ça c'est la deuxième chose. S'il avait pris l'avion le lundi, c'est parce que Dieu savait que la fille allait prendre l'avion le vendredi. Dieu s'est organisé pour barrer pour qu'il prenne le même avion 20. Hein? Donc il y a des choses pour lesquelles, bien aimé, tu vas voyager comme ça, le vol s'annule. Oh, moi j'en ai assez, moi des choses. Non, Dieu sait. Un jour, papa m'a raconté une histoire. Il était aux États-Unis. Il est arrivé à un guichet. Une dame est arrivée. Elle voulait prendre à tout prix l'avion. Lui, il lui a laissé la place. Il a dit, madame, comme vous êtes trop pressé. L'avion a décollé 5 minutes, l'avion est tombé. Donc, si lui avait pris l'avion, c'est lui qui serait mort. Il y a certaines choses, ne force pas trop. Moi, si ce n'est pas aujourd'hui, moi non. Tu vas à la mort. Tes choix vont déterminer ta destinée. Il y a des choix, il ne faut pas les faire, il faut que les autres les fassent à ta place. J'ai envie de faire ça, qu'est-ce que vous pensez? Fais ça comme ça.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.